Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 6 juin 2023. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Pour commencer, les titres. Trois intellectuels sénégalais de renom imputent la crise actuelle dans leur pays à ce qu'ils appellent la dérive autoritaire du président Macky Sall. Sénégal toujours, arrestation d'un maître coranique soupçonné d'avoir violé 27 écolières. Le Rwanda demande l'aide du Malawi pour retrouver 55 fugitifs recherchés en rapport avec le génocide de 1994. 10 Congolais de RDC ont été tués dimanche dans les combats au Soudan, annonce Kinshasa. Réouverture ce mardi de l'ambassade de l'Iran en Arabie Saoudite après plus de 7 ans de rupture. L'ancien vice-président américain Mike Pence dépose sa candidature à la présidentielle de 2024. Il fera face à son ex-patron Donald Trump. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Donc, trois intellectuels sénégalais de renom ont imputé le récent accès de violence dans leur pays à la dérive autoritaire du président Macky Sall et au projet qu'il lui prête de briguer un troisième mandat en 2024. Les précisions d'Éric Manerakidza.
La situation que vit notre pays résulte de la dérive autoritaire du président Macky Sall, disent Mohamed Mbougar Sarr, Félouine Sarr et Boubacar Boris Diop dans une tribune intitulée « Cette vérité qu'on ne saurait cacher » et qui est publiée dans la presse et sur les réseaux sociaux. Le Sénégal a vécu les pires violences après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme. Ce procès a convaincu les Sénégalais que l'objectif était l'élimination d'un opposant en vue de la présidentielle, disent les trois auteurs. Des crises que le Sénégal a connues depuis son indépendance et celle-ci est la plus simple à résoudre. Selon eux, il suffirait qu'un homme dise « je renonce à briguer un troisième mandat ». Jusque-là, le président Macky Sall entretient le flou sur ses intentions. Bougar Sarr prit Goncourt, Boubacar Boris Diop prix américain Nejdat et Félouine Sarr, co-auteur en France du rapport sur la restitution du patrimoine africain, accable un pouvoir qui emprisonne, réprime les libertés et tire sur son propre peuple. Ils s'en prennent aussi à la frénésie accumulatrice d'une caste qui s'enrichit illicitement, indifférente selon eux à la misère sociale et au sort de la jeunesse.
Par ailleurs, toujours au Sénégal, un maître coranique soupçonné d'avoir violé 27 de ses écolières à Touba a été arrêté lundi dans cette ville sainte de la confrérie Mouride. Le violeur présumé qui s'est lui-même présenté à la police était en cavale depuis plusieurs semaines, a dit un responsable policier. Des certificats médicaux ont été produits par les victimes qui seraient des mineurs. L'école coranique a été fermée selon la presse locale. L'affaire a éclaté quand une des filles a refusé de retourner à l'école parce que son maître coranique entretenait avec elle et toutes les autres filles des rapports sexuels, a écrit le quotidien Le Jour le 31 mai. Des ressortissants de la République démocratique du Congo, 10 ressortissants, ont été tués dimanche à Khartoum dans des bombardements de l'armée régulière sur le campus de l'Université internationale d'Afrique, selon Kinshasa, lundi. Le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a dit avoir appris avec une profonde consternation la mort de ces 10 ressortissants, ajoutant que les informations à sa possession indiquent que des tirs mortels exécutés sur une zone occupée par des populations civiles et non armées, y compris des ressortissants de pays étrangers, ont grièvement blessé d'autres compatriotes. Le gouvernement du Malawi a annoncé hier avoir reçu une demande d'aide du Rwanda pour retrouver 55 fugitifs recherchés pour leur rôle dans le génocide de 1994 et qui se cacheraient dans ce pays d'Afrique australe, Jean-Roger Bion.
Le gouvernement rwandais a demandé l'aide du gouvernement du Malawi pour identifier 55 suspects qui se cachent au Malawi. Ces personnes sont des chefs de guerre connus, a déclaré Kendi Kale Ngoma, le ministre malawite de la sécurité intérieure, lors d'une conférence de presse à Lilongwe. Les 55 suspects sont recherchés pour la mort de plus de 2000 personnes dans certaines églises, a déclaré M. Ngoma, sans donner plus de détails. Cette demande de Kigali intervient quelques semaines après l'arrestation en Afrique du Sud de Fulgence Kayishema, qui était alors l'un des quatre derniers fugitifs recherchés par les enquêteurs de l'ONU. Kayishema a utilisé de nombreux noms d'emprunt et de faux documents, a voyagé avec un passeport du Malawi. M. Ngoma a indiqué que les autorités menaient des enquêtes pour comprendre comment cet homme, aujourd'hui âgé de 62 ans, s'était procuré des papiers du Malawi et qu'elle fournirait bientôt un rapport complet.
Des soldats israéliens vont participer activement pour la première fois à des manœuvres militaires sur le sol marocain. L'exercice international African Lion 2023, le plus large sur le continent africain, qui commence ce mardi, selon l'armée israélienne lundi. Co-organisé par le Maroc et les États-Unis, la 19e édition de l'exercice African Lion doit mobiliser jusqu'au 16 juin près de 8000 soldats en provenance de 18 pays.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ambassade iranienne en Arabie Saoudite va rouvrir ses portes ce mardi, scellant le rapprochement entre les deux puissances rivales après plus de 7 ans de rupture. Mohamed Oumfa.
La réouverture de l'ambassade iranienne aura lieu à 18h heure locale, 15h GMT, en présence du nouvel ambassadeur iranien, a affirmé un diplomate basé à Riyad sous couvert d'anonymat. Selon Iran Daily, le quotidien anglophone du gouvernement, le poste sera occupé par le diplomate iranien de haut rang, Ali Zera et Nayati. Les deux puissances régionales ont conclu en mars un accord surprise par l'entremise de la Chine prévoyant la réouverture de leurs ambassades respectives et la mise en œuvre d'accords de coopération économique et de sécurité signés il y a plus de 20 ans. Dans le cas de l'achèvement du processus de mise en œuvre des accords bilatéraux, l'ambassade de la République islamique d'Iran à Riyad, le consulat général à Djeddah et le bureau du représentant de l'Iran auprès de l'Organisation de la coopération islamique seront officiellement rouverts mardi et mercredi, a confirmé le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, dans un communiqué. Téhéran et Riyad, poids lourds du Moyen-Orient, avaient rompu leurs relations en 2016 après l'attaque de missions diplomatiques saoudiennes par des manifestants dans la République islamique à la suite de l'exécution par la monarchie du Golfe d'un influent religieux chiite.
L'ancien vice-président américain Mike Pence a déposé hier sa candidature à la Maison-Blanche selon des documents publiés par la Commission électorale fédérale. Il va défier donc son ancien patron Donald Trump lors des primaires républicaines. Jacques Aristide.
Mike Pence va officialiser demain mercredi, le jour de ses 64 ans, son entrée en lice avec une vidéo, puis un meeting à Des Moines dans l'Iowa et va terminer la journée sur un plateau de CNN. Il prépare sa candidature depuis des mois après avoir sorti un livre intitulé « So Help Me God ». L'ancien animateur de radio a sillonné le pays, multipliant les prises de parole dans des États susceptibles de faire la différence lors des primaires républicaines. Chrétien évangélique, farouche opposant à l'avortement, Mike Pence a été le colistier de Donald Trump pendant la campagne de 2016. Après des années de loyauté indéfectible, en tant que son vice-président, il a changé de ton à la suite de l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021, pendant qu'il devait certifier la victoire du démocrate Joe Biden. Cela a valu à l'ancien gouverneur de l'Indiana une forte inimitié chez les fidèles de Trump, dont certains le considèrent comme un traître. Selon des derniers sondages, il est à 3,8% des intentions de vote, loin derrière l'ancien président qui caracole à 53,2%. Il est également devancé par Ron DeSantis, gouverneur de Floride, qui est à 22,4%, et Nikki Haley, l'ancienne représentante à l'ONU.
L'Ukraine a affirmé gagner du terrain près de la ville ravagée de Bakhmout dans l'Est, mais a relativisé l'ampleur des actions offensives menées ailleurs sur le front, la Russie affirmant au contraire repousser des attaques d'envergure. Ces opérations ont lieu à un moment où les autorités ukrainiennes disent préparer depuis des mois une vaste contre-offensive destinée à obliger les troupes russes à se retirer des zones qu'elles occupent. Selon le ministère russe de la Défense, ces forces avaient tué plus de 1500 militaires ukrainiens et détruit 28 chars. Pour le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgeny Prigojine, coutumier des critiques virulentes envers l'état-major russe, il ne s'agit que d'élucubrations. La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
En RDC, la coalition de la société civile « Le Congo n'est pas à vendre » a dénoncé le week-end dernier l'accord conclu fin 2022 entre le gouvernement et la société Primera Group, basée aux Émirats Arabes Unis. Elle demande la suppression du monopole de 25 ans accordé à cette société pour l'exportation de la production artisanale d'or et de minerais comme le coltan, l'étain et le tungstène. Ecofin précise que cet accord donne aussi des allègements fiscaux très généreux aux deux filiales locales de Primera. La Côte d'Ivoire accueille pour la quatrième fois l'Africa CEO Forum à Abidjan. Plus de 2000 participants issus de 70 pays, dont 43 États du continent africain, y participent. Le secteur privé de la Côte d'Ivoire, ces 10 dernières années, a contribué à plus de 75% du doublement du produit intérieur brut. Le Fonds fiduciaire pour l'égalité des sexes de la Banque africaine de développement accorde un don de 950 000 dollars au programme de promotion des liens d'affaires pour les petites et moyennes entreprises au Burkina Faso, au Tchad, au Mali, en Mauritanie et au Niger. Ce programme va appuyer plus d'un millier d'entrepreneuses dans la région du Sahel.
Merci Claire. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Rami Bensabaini s'engage à Dortmund.
Oui, l'international algérien en fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach s'est engagé avec le Borussia Dortmund pour les 4 prochaines saisons jusqu'à l'été 2027. Selon l'annonce faite par Dortmund, défenseur gauche Rami Bensabaini viendra pallier le départ de l'international portugais Rafael Guerreiro, lui aussi en fin de contrat à Dortmund et qui ne prolongera pas son bail avec le club de la Ruhr. Après 3 saisons passées à Rennes de 2016 à 2019, Bensabaini est arrivé à Gladbach à l'été 2019 et a disputé la Ligue des Champions lors de la saison 2020-2021. Le Borussia Dortmund a conclu la saison 2022-2023 à la deuxième place, devancée par le Bayern Munich à la différence de but général.
Transfert toujours, le père de Lionel Messi assure que son fils aimerait revenir au FC Barcelone.
Le père et représentant de Lionel Messi, José Messi, a assuré hier lundi que la superstar argentine aimerait revenir au FC Barcelone, mais qu'aucune décision n'a encore été prise. « J'adorerais qu'il revienne en Catalogne », a ajouté José Messi. Il a aussi confirmé avoir discuté avec le président Blaugrana, Juan Laporta, mais que rien de concret n'est ressorti de cette discussion. Samedi, Messi a disputé son dernier match avec le Paris Saint-Germain, le club qui l'avait rejoint après son départ du Barça en 2021. D'après les médias spécialisés, l'Inter Miami du championnat nord-américain de football, MLS, a aussi montré son intérêt. De hauts dirigeants du club saoudien d'Al Hilal sont venus à Paris dimanche pour tenter de conclure un énorme contrat avec Lionel Messi, a appris l'AFP de deux sources proches des pourparlers.
L'Espagne et le Brésil joueront un match amical contre le racisme en 2024.
L'annonce est faite par la Fédération espagnole de football qui précise que l'Espagne et le Brésil disputeront ce match amical en soutien à la lutte contre le racisme en mars 2024. Dans un communiqué, les fédérations des deux pays disent que cette rencontre servira à soutenir l'engagement des deux entités contre les violences dans le football. Le match sera organisé en Espagne et s'il se trouve que l'Espagne a des engagements officiels durant cette fenêtre internationale, on cherchera une nouvelle date dans le calendrier à détailler la Fédération royale espagnole de football. Cette annonce arrive 2 semaines après les insultes racistes essuyées par le jeune attaquant international brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior, le 21 mai à Valence, qui ont déclenché une vague de soutien dans le monde entier et une série de 7 arrestations en Espagne.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les Sénégalais ont commencé à reprendre leurs activités lundi après les violences, mais la crainte d'une nouvelle flambée persiste en raison de l'incertitude politique. Bien que les rues de la capitale Dakar se remplissent progressivement, de nombreuses agences bancaires sont toujours fermées. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Dakar Pierre Salé, ancien secrétaire général d'Amnesty International.
Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y a peur à l'avenir. Il y a des situations dans les pays voisins en Afrique qui sont bien pires que celles que l'on dit. Au moins, ils sont préservés du péril. Nous ne sommes pas dirigés par un régime militaire et nous ne sommes pas en période de guerre civile. Il y a des soubresauts comme dans toute démocratie.
Que répondez-vous à ceux qui pensent que les acquis démocratiques sont liquidés au Sénégal?
Non. Vous savez, les acquis démocratiques sont plus menacés par l'incapacité des autorités à sortir la population de la pauvreté. 50% de la population vit dans la pauvreté. 50% de la population vit dans l'ignorance, alors que nous avons 60 ans d'indépendance. Donc, ces échecs du point de vue économique et social, c'est ça qui constitue une menace à la démocratie. Parce qu'il y a des gens qui ne se sentent pas inclus. Tous ces jeunes-là qui sont sans travail ne sont pas inclus. Nous avons un système qui exclut. Donc, il est évident que lorsqu'il y a des erreurs dans le jeu politique et que ces jeunes perçoivent qu'une injustice est en train d'être commise, en plus de l'injustice sociale, qu'une injustice est en train d'être commise, ils réagissent spontanément. Il n'y a pas d'appel à l'insurrection, ils réagissent spontanément et cassent sur leur passage. Donc, je crois que pour qu'il y ait vraiment une atteinte grave à la démocratie, il faut que ce soit organisé par des forces qui veulent mettre fin à la démocratie sénégalaise. Mais là, c'est, si vous voulez, une erreur monumentale de l'État qui a sous-estimé le degré de colère qui existe dans le pays par rapport à une gestion nébuleuse du pouvoir, une gestion frauduleuse du pouvoir et une injustice de plus contre un homme politique populaire après avoir commis la même forfaiture contre Khalifa Sall et Karim Wade. Et c'est cette répétition-là par des gens arrogants qui pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est un rappel qui est envoyé aux puissants pour leur dire non, ce n'est pas parce que vous êtes au pouvoir que vous pouvez faire ce que vous voulez dans ce pays-là.
Quelles sont les solutions que vous voyez?
On attend du président Macky Sall qu'il respecte scrupuleusement la Constitution et qu'il ne prenne pas une direction que tout le monde refuse, c'est-à-dire un troisième mandat. Ça, personne n'est d'accord là-dessus. Menace persiste, il va y avoir des soubresauts, surtout si cette menace de troisième mandat est accompagné par des actions visant à empêcher d'autres candidats de concourir aux élections de 2024.
Pierre Sané, ancien secrétaire général d'Amnesty International.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Nigeria, une annonce dans le discours inaugural du nouveau président Bola Tinubu a déclenché une série d'événements dans le pays le plus peuplé d'Afrique et un grand producteur de pétrole. La flambée du prix de l'essence a des effets dramatiques sur la vie des Nigérians, notamment pour le transport, la nourriture et autres denrées de première nécessité. Un reportage de notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
La politique du nouveau gouvernement suscite déjà des inquiétudes et le chaos. Les Nigériens s'y plaignent et sont en colère face aux effets de la suppression des subventions sur le carburant. Au marché de Guarimpa, à Abuja, la capitale fédérale, l'augmentation des prix des denrées alimentaires pose problème à toutes les vendeuses et à ceux qui viennent faire leurs courses.
La décision a sérieusement affecté mes affaires. Parce que les choses que j'achetais avant à 200 sont maintenant de 350 ou 400 naira. Et les gens qui viennent acheter chez moi se plaignent et se lamentent. Ils nous insultent, même parfois, comme si nous étions ceux qui ont rendu les choses difficiles. Ce n'est pas comme ça. Ils devraient aller parler au gouvernement parce que nous ressentons tous les mêmes difficultés.
Cette situation est très mauvaise pour nous. Nous ne comprenons pas. Parce que le prix de tout ce que nous achetons a augmenté. Comme ce matin, je suis allée au marché. Le gari que j'achetais auparavant à 20 000 naira est maintenant vendu à 28 000 naira. La même chose pour le riz, et on ne voit même plus les œufs. Toutes les choses que nous achetions ne viennent plus à cause du coût élevé du transport pour les apporter.
Le prix de l'essence à la pompe est passé officiellement de 185 naira avant l'annonce du président à 537 naira et 550 naira aujourd'hui. Une augmentation qui a des conséquences généralisées dans le pays où, selon les Nations Unies, 133 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Chioma est une mère de famille qui essaye de joindre les débuts pour faire survivre son foyer.
C'est vraiment très difficile pour les gens car dans une telle situation, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour alimenter leur voiture, leur générateur et d'autres choses, et le fait que nous n'avons pas vraiment aussi de courant, cette augmentation du prix du carburant affecte vraiment les gens. Et même sur le marché, les choses sont très chères.
La suppression de la subvention sur le carburant est une décision vraiment impopulaire chez les Nigériens. Dans le petit palais du chef traditionnel de Guarimpa, le roi est aussi inquiet de la situation sur le terrain. Ibrahim Isiagu.
De toute évidence, nous sommes à la base et dans les communautés, nous voyons comment les gens sont touchés par cette mesure. Nous savons que le gouvernement sait ce qu'il fait, mais parfois, dans la prise de décision, il devrait avoir certaines considérations, car nous ne trouvons pas cette décision facile pour le citoyen de base. Les gens qui vivent au jour le jour ne trouvent pas ça facile.
On estime à environ 70 millions de litres de carburant consommés par jour dans le pays, l'un des plus gros producteurs de pétrole brut d'Afrique. Le pays importe du pétrole raffiné d'Europe qui est subventionné pour faire baisser les prix pour les consommateurs. Les négociations entre le nouveau gouvernement et les syndicats, à l'absence de la puissante centrale syndicale des travailleurs du Nigeria, n'ont pas encore abouti. Le syndicat national mobilise déjà ses membres pour une grève nationale à partir de ce mercredi. La NLC réclame le retour au prix habituel de 185 naira le litre et entame les négociations. C'est dire qu'un nouveau bras de fer commence avec les nouvelles autorités nigériennes. Gilbert Tamba à Abuja pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, et nous vous le disions hier, les locaux du journal d'investigation L'Événement ont été mis sous scellé par les autorités en raison d'un contentieux fiscal. La CEP, Société des éditeurs de la presse privée, dénonce une instrumentalisation du fisc pour faire taire des voix discordantes par rapport à la politique des autorités de la transition. Yacouba Ouédraogo a joint à Ouagadougou Inoussa Ouédraogo, président de la Société des éditeurs de la presse privée.
J'avoue que nous n'avons pas été surpris par cette fermeture-là, parce que vous savez, depuis plusieurs mois, tous ceux qui suivent l'évolution des débats sur les médias au Burkina savent clairement qu'il y avait des volontés de museler la presse libre et indépendante, ainsi qu'une volonté d'instaurer une sorte de pensée unique, de faire taire ceux qui font entendre d'autres sons de cloche autres que ceux des autorités. Nous apprenons d'ailleurs qu'il y a d'autres médias qui sont dans le collimateur des impôts. Mais pour nous, cette décision est simplement regrettable. Nous comprenons certes la volonté des services des impôts de faire leur travail de collecte. Et l'événement n'est pas au-dessus de la loi. Et il doit payer les impôts. Mais il est difficile de ne pas faire le lien entre le travail de ce journal d'investigation et sa fermeture par les impôts. Nous sommes loin de ceux qui encouragent l'institution, mais nous pensons que la mise sous scellé du journal pour des raisons de fiscalité est non seulement une mauvaise solution à un problème réel, mais c'est aussi une entrave à la liberté de presse.
Quand vous dites instrumentalisation du fisc, D'aucuns penseront que derrière le fisc, il y a le pouvoir en place. Alors que c'est juste que l'organe a été mis sous scellé parce qu'il n'a pas payé ses impôts.
Oui, mais combien d'entreprises au niveau du Burkina ne sont pas à jour vis-à-vis des impôts? Ça veut dire qu'il faut fermer tous les médias au Burkina, parce que, ou en tout cas la plupart, parce que nombreux sont ceux qui sont dans des difficultés. Si ouvert, le journal ne peut pas être à jour de ses impôts, ce n'est pas en fermant qu'il sera à jour. Du reste, depuis plusieurs jours, l'événement est en discussion avec les services des impôts pour éponger progressivement sa dette. Ce n'est pas que le journal refuse de payer.
Justement, dans une situation pareille, que va faire ou que fait la Société des éditeurs de presse privée?
Dans les heures qui suivent, nous allons mettre à disposition de tous ceux qui le désirent des coordonnées bancaires, des numéros pour recevoir des dons financiers pour soutenir ce journal-là. Il ne faut pas que le journal rate ses prochaines parutions. Il faut, dans une sorte de sursaut républicain, protéger et garantir la pérennité des rares leviers qui nous restent pour sauver l'état de droit et garantir la démocratie.
Inoussa Ouédraogo, président de la Société des éditeurs de la presse privée du Burkina Faso. En Côte d'Ivoire, fin aujourd'hui après deux jours de travaux à Abidjan de l'édition 2023 de l'Africa CEO Forum, avec plus de 1800 chefs d'entreprise et plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Ce forum destiné au partenariat public-privé pour un avenir économique radieux de l'Afrique est axé sur le thème « Réussir malgré les crises de 300 à 3000 Comment accélérer le nombre de nos champions internationaux ? Un reportage de Delphine Boïs, notre correspondante à Abidjan.
Africa CEO Forum 2023 rassemble plus de 2000 participants de 70 pays, dont 43 du continent africain. Ce rendez-vous économique pour réfléchir sur les opportunités d'un partenariat public-privé pour la souveraineté économique de l'Afrique. Jérôme Patrick Hachi, chef du gouvernement ivoirien.
Le thème de ce forum, réussir malgré les crises de 300 à 3000, ou comment accélérer l'émergence de la prochaine génération de champions africains, prend toute sa pertinence et son urgence. Ces défis imposent de toujours voir plus loin et plus grand, de mieux anticiper, d'agir plus résolument, plus efficacement. Au-delà des crises et mutations, nous faisons face à un autre défi de taille, l'extrême jeunesse de notre population. Cela peut être notre plus gros actif si nous y investissons, mais aussi notre plus gros passif dans un monde où les opportunités et les menaces de tout genre existent.
Pour le Premier ministre de la République du Royaume du Maroc, Aziz Aknouch, il faut transformer la menace en opportunité.
L'avenir aujourd'hui de la charte de l'investissement, avoir des priorités sectorielles comme la santé, l'automobile, l'agro-industrie, les fertilisants, l'aéronautique, avoir des champions dans ces domaines, je pense que transforme la menace en opportunité et donne beaucoup plus de possibilités justement d'intégrer cette chaîne de valeur. Maintenant, la chaîne de valeur ne peut pas être seulement à l'intérieur d'un pays. Il faut qu'elle soit intégrée régionalement. Aucun pays ne peut tout faire tout seul. Je pense qu'on a besoin de complémentarité. Et l'Afrique a cette caractéristique.
Co-organisé par le groupe Jeune Afrique et la Société financière internationale, ce 9e forum veut voir avec le partenariat public-privé l'alternative pour relever les défis des économies africaines. Maktar Diop, directeur général de la SFI.
La logique du partenariat doit également s'imposer entre tous les acteurs du développement opérant sur le continent. Nous pouvons compter sur des institutions fortes et engagées avec lesquelles nous travaillerons main dans la main. L'année dernière, nous avons également abordé l'importance des technologies numériques. Le développement de ces nouvelles technologies s'avère décisif pour relever le défi de l'inclusion financière, particulièrement en direction des PME.
Les travaux de cette 9e édition du Forum Africa CEO commencé hier vont se terminer ce mardi. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Merci Delphine. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde de Fatouma Kalala Alimassi, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.